Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Turner et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Bruno Donadille. Docteur Donadille, bonjour.
Bonjour.
Docteur Donadille, vous êtes endocrinologue adulte, praticien hospitalier au sein du service d'endocrinologie, diabétologie et endocrinologie de la reproduction de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et vous êtes également clinicien du centre de référence des maladies endocriniennes de la croissance et du développement au sein du centre constitutif de l'hôpital Saint-Antoine sous l'égide de la filière Firindo. Alors, docteur Donadille, on aborde aujourd'hui le suivi au long cours des patients touchés par un syndrome de Turner. Pour débuter notre entretien, on va parler d'une période importante, le passage à l'âge adulte. Quels sont les enjeux de la transition enfant-adulte pour ces patientes touchées par un syndrome de Turner ?
Alors, merci pour l'invitation. Effectivement, au sein de notre centre constitutif, dès sa création, lorsqu'il a été labellisé en 2006, la transition a été un enjeu important parce que notre centre a la particularité d'avoir des centres pédiatriques et des centres adultes qui sont au sein d'un même réseau. Et après les trois plans nationaux maladies rares qui avaient structuré le réseau de soins sur le plan national, il y avait déjà des difficultés qui avaient été mises en évidence, comme par exemple l'errance du diagnostic qui s'améliore dans le syndrome de Turner, puisqu'actuellement l'âge moyen du diagnostic est autour de 9 ans. Et un autre problème était le nombre important de patientes qu'on appelle perdues de vue, c'est-à-dire qui n'étaient pas réceptionnées par les adultes après avoir été suivies en pédiatrie. Et donc, on a travaillé sur cette transition qui est donc un enjeu important. C'est une structuration particulière du parcours de soins, c'est-à-dire un mouvement planifié par l'équipe soignante médicale et paramédicale pour la malade et son entourage, qui part des préoccupations de soins d'une enfant qui est porteuse d'une maladie chronique, puis qui va l'accompagner vers son autonomisation avec l'acquisition de compétences pour prendre soin de soi, qu'on appelle les compétences d'auto-soin, dans le but donc d'obtenir une autonomie et une adhésion de la patiente à l'âge adulte à son suivi ultérieur. Donc géographiquement, ça peut se passer soit sur le même site, ou c'est notre cas, dans deux hôpitaux différents, mais qui travaillent au sein de l'assistance publique et qui sont donc dans le même réseau de soins. Donc les soignants communiquent bien entre eux avec des documents communs. Et donc, tout le long de cette période de transition, on va apprécier le niveau d'acceptation de la maladie chronique par la patiente. Cette maladie, qui est donc l'annonce d'une anomalie chromosomique, qui est souvent mal connue dans la population, peut faire l'objet d'une stigmatisation par assimilation avec d'autres maladies chromosomiques plus sévères, alors que les patientes ont un niveau d'intelligence en moyenne tout à fait normal. Et le plus souvent, donc, ces patients peuvent mal vivre l'annonce du diagnostic et c'est au moment de la construction de leur propre identité féminine. Et donc, elles pourront par la suite manquer de confiance en elles, de difficultés pour s'autoriser leur place. Donc, ça contraste avec une réflexion parfois qui est avancée sur ce que c'est de vivre avec une maladie rare chronique et certaines pourront tout à fait le vivre bien comme une particularité. C'est verbalisé lors des échanges avec les patientes, quand d'autres auront besoin d'un suivi psychologique pour mieux le vivre.
Et quelles sont les principales fonctions à surveiller chez ces patientes ?
Alors, le suivi du syndrome de Turner à l'âge adulte va nécessiter une prise en charge par une équipe de soins qui sera multidisciplinaire, parce qu'il sera nécessaire de s'assurer du bon fonctionnement des différents organes qui pourraient être concernés par la maladie. Alors, il y a plusieurs organes, dont l'audition. L'oreille reste une préoccupation importante pour les patientes avec un syndrome de Turner. La répétition des otites dans l'enfance va peu à peu abîmer l'audition au niveau des osselets de l'oreille moyenne. Et donc, chez l'adulte, il sera important de savoir en ORL si un appareillage auditif est nécessaire et à quel moment. Après l'audition, il y a la thyroïde, qui est un organe en forme de papillon, qui est situé à la base du cou, dont le rôle est d'assimiler l'iode qui est présent dans la circulation pour en faire des hormones thyroïdiennes. Et dans le syndrome de Turner, cet organe peut mal fonctionner. Alors, il peut fonctionner trop, ça s'appelle l'hyperthyroïdie, ou le plus souvent pas assez, ça s'appelle l'hypothyroïdie, et ça, c'est sous une influence de certains anticorps. Et une simple prise de sang suffira à dépister le statut thyroïdien et la présence de ces anticorps, et dans tous les cas, on peut le soigner par des médicaments. Un autre organe qui est atteint, ça peut être le système digestif, là aussi par des anticorps, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune, et c'est une digestion qui sera perturbée par des anticorps d'une maladie qu'on appelle la maladie cœliaque. Et là encore, une prise de sang régulière peut en faire un diagnostic précis, et ce sera à traiter par un régime qui va exclure le gluten. Après, au niveau du foie, il peut y avoir quelques perturbations aussi. Le plus souvent, ce sera comme un foie gras, surtout quand il y a quelques kilos en trop, ce qui est assez fréquent chez les patientes qui ont avec un syndrome de Turner. Et plus rarement, il existe des anomalies de la circulation vasculaire intrahépatique qui s'appellent une hyperplasie nodulaire focale. Et donc, une prise de sang régulière va faire un dépistage précoce et en cas de dépistage positif, au cas par cas, on va prescrire une échographie, par exemple, qui est un examen tout à fait indolore, et on peut prescrire aussi des tests qui ressemblent à l'échographie, comme un fibroscan. Et ensuite, des organes phares qui seront à cibler dans le retentissement de la maladie, c'est les artères. La circulation artérielle des patientes sera donc à surveiller tout particulièrement dans un centre qui est spécialisé à voir des cardiopathies congénitales.
Alors justement, au niveau cardiaque, docteur Donadi, quelles sont les particularités de l'atteinte cardiovasculaire de ces jeunes patientes ?
Alors d'une manière générale, chez ces patientes, le karyotype, c'est-à-dire l'examen des chromosomes, va nous donner des indications sur les possibles atteintes de la maladie artérielle. L'idée générale, c'est que plus le karyotype aura des cellules avec un chromosome X en moins, c'est-à-dire un karyotype 45X majoritaire, plus la forme typique de la maladie sur les artères sera à chercher. Et donc, classiquement, il peut exister plusieurs malformations cardiaques congénitales, donc qu'une patiente aura ou n'aura pas, qu'on peut retrouver chez une patiente sur deux en moyenne. Et le plus fréquemment, on va parler de deux malformations fréquemment, qui sont la coartation aortique, je vais le développer, et puis la bicuspidie aortique. Alors, la coartation aortique, qu'on peut voir dans 15% des cas environ, est un phénomène qui se retrouve à la sortie du cœur, où il y a un gros vaisseau qu'on va appeler l'aorte, qui est chargé de distribuer le sang artériel chargé en oxygène à tout l'organisme. Et à la sortie du cœur, ce gros tuyau va distribuer un peu le sang à tous les organes en passant par ce qu'on appelle des gros vaisseaux, comme la carotide primitive, l'artère sous-clavière. Et puis c'est un pincement juste après le départ de ces gros vaisseaux qui va définir cette coartation. Et donc tout le sang du cœur va devoir passer par un orifice plus petit, ce qui peut faire monter la tension en amont et faire donc dilater cette aorte, et en aval, faire baisser la tension artérielle. Les formes typiques seront révélées à la naissance et seront réparées chirurgicalement très tôt. Et les formes mineures, elles, seront dépistées à l'âge adulte. Ensuite, on va voir la bicuspidie aortique, qui peut être présente dans environ 30% des cas. Et c'est une maladie des valves cardiaques. Une valve, c'est une séparation étanche entre le cœur et l'aorte pour que les tensions soient bien séparées. Et cette valve s'appelle la valve normalement tricuspide, car elle doit être composée de trois feuillets. Et il peut exister des fois, non pas trois, mais deux feuillets. Ça se trouve dans la population, ça s'appelle une bicuspidie aortique, et c'est encore plus fréquent dans le syndrome de Turner, puisque ça peut exister dans 20-30% des cas. Et là encore, le sang du cœur va devoir passer à travers un orifice modifié, ce qui peut avoir un retentissement en aval sur l'aorte. En pédiatrie, donc, on insistera en cas de bicuspidie sur la prise d'antibiotiques en cas de soins dentaires, dans le but de prévenir les infections de la valve. Et donc, quand on va examiner nos patientes, on va donc chercher une asymétrie de la tension de bras quand on suspecte une coartation, et un souffle quand on va ausculter la patiente au foyer aortique pour révéler, par exemple, la présence d'une bicuspidie. Et en fonction de cet examen clinique, on prescrira des examens complémentaires pour savoir cette santé artérielle. Et donc, on va s'aider de plusieurs examens, comme en premier lieu, le plus souvent, l'échographie cardiaque en première intention, qui va regarder la valve aortique, qui va regarder toute l'aorte. Et puis après, on peut aussi s'aider d'imageries en coupe, qui sont le scanner et l'IRM. Et donc, au fil du temps, on va aussi mesurer le diamètre de l'aorte, dans le but de dépister une dilatation de l'aorte. En effet, l'aorte peut se dilater au fil du temps, dans la population générale, mais parfois un peu plus rapidement dans le syndrome de Turner. Et la dernière chose à regarder au niveau du cœur, c'est l'électrocardiogramme, parce que des fois, il peut y avoir certaines anomalies de conduction, comme un allongement du QT, qui peut modifier la prise de certains médicaments.
Et à l'âge adulte, cette fois, quels aspects cardiaques est-ce qu'il faut particulièrement surveiller ?
Alors, lors de la prise en charge à l'âge adulte, il sera important de faire le point régulièrement sur la santé des différents organes, en particulier au niveau de l'aorte, par exemple lors d'une courte hospitalisation de jour qui va avoir l'avantage de grouper l'ensemble des examens nécessaires. Et en fonction des antécédents en pédiatrie, on va continuer à suivre régulièrement une valve qu'on connaît bicuspide, ou alors on redécouvrira que la patiente à l'âge adulte a une bicuspidie, ou bien une coartation qui est déjà connue et qu'on va continuer de suivre. Et en plus de ces cardiopathies congénitales, il faudra dépister chez l'adulte la survenue de pathologies acquises qui sont importantes pour la santé de l'aorte, Donc, le premier facteur acquis, c'est la présence d'une hypertension artérielle, parce que en l'absence de traitement, ça pourrait favoriser la dilatation de l'aorte. Donc, on va facilement demander l'enregistrement de la tension sur 24 heures et être traité par des comprimés si on diagnostique une hypertension. Après, on va apprécier le niveau de risque vasculaire global de nos patientes en surveillant bien le poids, la consommation de tabac, le taux de cholestérol, la surveillance dans le diabète, pour essayer de prévenir un athérome précoce au niveau des coronaires, au niveau cérébral. Et comme dans toute la population, on préconise une activité physique régulière et un bon équilibre alimentaire. Donc, le but de cette prise en charge adulte, c'est de limiter la dilatation de l'aorte avec le temps, et donc éviter un risque que l'aorte se déchire lors d'un événement qu'on veut absolument éviter, qui est la dissection aortique. C'est un diagnostic spécialisé de dilatation de l'aorte qui doit être établi en fonction des visites et qui va, en fonction de la valeur qu'on va trouver, déterminer un rythme de suivi qui sera plus ou moins fréquent. Et en cas de dilatation, cette aorte pourra être traitée avec l'avis d'un cardiologue par les mêmes médicaments qu'on prescrit dans l'hypertension artérielle. Donc, ça reste quelque chose qui est tout à fait accessible à un traitement. Et ce n'est que quand, en cas de dilatation qui est très avancée, que là, on adressera la patiente dans un service spécialisé dans les cardiopathies congénitales pour évaluer l'opportunité d'une intervention chirurgicale pour changer cette aorte.
Alors, on arrive au terme de notre entretien, docteur Donadi. Pour conclure, quelles sont les dernières recommandations en termes de suivi des patientes ?
Alors, les recommandations sont récentes, puisque les recommandations internationales ont été publiées en 2017 et les recommandations nationales viennent d'être mises à jour sur le site de la Haute Autorité de Santé en novembre dernier. Et donc, le but est d'optimiser le vécu et le bien-être des patientes qui sont porteuses de cette anomalie rare. Et donc, il sera important que les patientes adhèrent à leur parcours de soins pour régulièrement savoir où est-ce qu'elles en sont sur leur santé, en particulier de l'aorte. Donc, pour aider à ça, nous avons conçu dans le service un programme d'éducation thérapeutique qui a lieu à Saint-Antoine au cours d'une journée dédiée qui a été élaborée avec l'aide des associations de malades. Cette journée a lieu dans avec un petit groupe de patients, ce qui est l'occasion souvent de voir pour la première fois d'autres patientes qui ont la même maladie rare qu'elles. Et cette journée comporte des entretiens individuels, des ateliers pour convenir d'un projet éducatif personnalisé. Là, je voudrais parler aussi du cas particulier de la grossesse qui a fait l'objet de recommandations. Les grossesses, la plupart du temps, sont obtenues dans la majorité des cas par un don d'ovocytes. Et une fois qu'on aura fait le point sur le suivi global de la patiente, en particulier sur le plan métabolique, sur le plan hépatique et thyroïdien, il faudra apprécier au niveau de l'aorte comment va aller la patiente avant le don d'ovocytes, parce que la grossesse est un facteur acquis de dilatation de l'aorte, et donc ça rend indispensable un bilan d'imagerie avant tout projet de grossesse. Et il existe malheureusement, selon les recommandations internationales, des contre-indications à la grossesse, en présence d'une bicuspidie par exemple, compliquée d'une dilatation qui sera importante. Et donc, de toute façon, ce sera des grossesses qui seront suivies, car à haut risque, et leur dossier est à discuter en réunion multidisciplinaire afin d'en encadrer l'autorisation ou non.
Eh bien, merci mille fois, docteur Donadi, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le syndrome de Turner. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.